Salut et bienvenue dans Feel School, le podcast qui part à la rencontre des stars du web et des warios du quotidien qui ont un point commun, le harcèlement scolaire. Je suis Guillaume Villain et deux fois par mois, j'invite des personnes inspirantes pour parler sans filtre de leur parcours de harcèlement mais aussi de leur réussite. Chaque épisode se concentre sur un profil particulier avec son point de vue et ses solutions. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Miel. À 16 ans, elle a transformé ses situations dramatiques en inspiration. Imagine, elle a affronté le revenge porn, des agressions sexuelles graves, mais loin de se laisser abattre, elle a repris le contrôle en moins de 3 ans. Aujourd'hui, avec des milliers de followers sur Instagram et plus d'un million sur TikTok, elle motive et éduque sur la santé mentale. Alors, prêt à être inspiré ? Découvre comment elle travaille pour une jeunesse plus heureuse.
Il y a un garçon de ma classe qui a commencé à me demander des photos intimes de moi. Je lui ai violé parole. Un autre garçon, le fils des anciens amis de mes parents. Et le 9 mars 2021 exactement, j'ai pris des médicaments et j'ai fini à l'hôpital.
Bah bonjour, merci d'être là.
Coucou.
Je vais te laisser te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore.
Bah alors moi, je m'appelle Miel, Miel Abitbol. J'ai 16 ans. Je suis un peu sur les réseaux TikTok, Instagram, tout ça. Je suis en terminale. Et voilà, bah c'est un peu moi ça.
Cool. Et alors quand tu dis je suis sur les réseaux, t'es quand même bien sur les réseaux.
Je suis quand même bien sur les réseaux, j'avoue, je poste, je suis assez régulière dessus. Enfin sur TikTok, on est bientôt là, 1,5
million. 1,5 million sur TikTok, donc t'es bien sur les réseaux.
Beaucoup, c'est pas mal. Et sur Instagram, 450 000, c'est énorme.
À quel âge ?
16 ans.
À 16 ans, donc c'est...
C'est énorme.
Énorme. C'est assez énorme. Tu fais rêver donc pas mal de gens. Tu as quand même bah aussi pas mal de choses intéressantes à nous raconter. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui.
Effectivement.
Avec des choses super et des choses un peu moins bien qui te sont malheureusement arrivées. Et ouais. Donc bah, l'idée, c'est de, bah, d'expliquer aux jeunes ce qui t'est un peu arrivé et de, qu'on comprenne un peu le cheminement et ton parcours. Peut-être reprendre au démarrage. Donc bah, ton enfance, comment ça s'est passé, où tu étais.
Alors j'étais en banlieue. Je suis née dans le. Je sais plus, mais en banlieue, quelque part en banlieue. J'ai grandi dans le 94, voilà, jusqu'à mes 6 ans. Donc j'étais avec mes deux parents, des grands frères. Et quand j'ai eu 6 ans, du coup, on a déménagé en Californie, aux États-Unis, à San Diego. On est resté là-bas pendant 5 ans. Et pendant ces moments-là, il y a mon petit frère aussi qui est né. Mmh. Voilà. Et après, quand j'ai eu 11 ans, on a redéménagé en France. Du coup, on est allé à Paris et jusque là-bas, je continue.
Ok.
Jusque là.
Donc, t'as voyagé déjà aussi pas mal.
C'est ça.
Et ces déménagements, ça t'a fait, c'était cool ou pas ou...
Bah, en vrai, ça m'a permis de voir différentes cultures, on va dire, parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France. Mmh. Après, c'est assez dur parce que à chaque fois, je me coupais de tous mes amis que je me faisais. Donc ça, c'était un peu la partie moins bien du déménagement.
Du déménagement.
C'est ça. Et surtout, vu qu'on est parti, on est revenu, les amis, ils restaient pas longtemps, quoi.
Ouais, donc au niveau social, c'est un peu compliqué de voyager tout le temps et de suivre...
Ouais, c'est ça.
Ok. Et donc là, au niveau scolarité, tout se passe bien ? T'es dans des chouettes écoles où
ouais,
y a...
moi, j'ai toujours été une bonne élève. Alors, j'ai toujours été une très
scolaire.
Bonne élève. Ouais, très scolaire. Enfin, j'ai eu des facilités. J'ai sauté une classe. J'ai sauté le CE2 quand j'étais aux États-Unis, du coup. J'ai toujours eu des bonnes notes. J'étais toujours bien appréciée des professeurs, tout ça. Même jusque je déménage en France, je suis arrivée en mi-5e en France. Mm-hmm. Parce qu'on a déménagé en milieu d'année. Et à ce moment-là, bah, pareil, hein, j'avais des bonnes notes. J'étais bonne élève, tout ça. Après, j'avoue qu'à un moment, ça a été un peu compliqué. En seconde, surtout, les notes, grosse chute. Mais maintenant, ça va, je suis en terminale, je vais passer le bac cette année, je vais finir le lycée.
Et c'était lié, cette chute de notes, elle est liée au déménagement, enfin au fait que tu dois t'adapter au système français ou
Non, c'était pas ça. Là, c'était plus par rapport à plein de complications que j'ai eues. J'ai changé d'école. Mm-hmm. Enfin, parce que, attendez, en fait, j'ai déménagé en France, donc je suis arrivée en mi-5e. Mmh. En mi-5e, j'étais dans une école américaine, donc à Paris, et ça se passait plutôt bien niveau notes et niveau scolaire. Et après, en 3e, bah, y a eu beaucoup de bouleversements, on va dire, dans ma vie, donc je vais sûrement parler après. Et j'ai changé d'école pour aller dans une autre école anglaise, américaine, en seconde, du coup, pour la seconde. Et là, les notes, grosse chute, j'ai eu à la fin de l'année 350... heures d'absence.
Okay.
Donc voilà, les notes ont suivi avec ces heures d'absence. Et après, j'ai rechangé d'école en première et dans la même école que je suis maintenant. Et ça se passe très bien. J'ai des bonnes notes et tout. ça va.
Top. Au niveau primaire, etc., est-ce que tu as vécu... Alors, la thématique principale, c'est le harcèlement scolaire aussi. Ouais, j'aime bien aborder la thématique. Je sais pas, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter là-dessus ou c'est arrivé un peu plus tard?
Moi, j'ai pas vraiment vécu de harcèlement quand j'étais en primaire. Mm-hmm. Enfin, ça se passait plutôt bien. J'avais pas nécessairement beaucoup de copines, mais je me faisais pas insulter ou malmener ou rejeter ou quoi que ce soit. Après, moi, le harcèlement, il est plus arrivé plus tard, au collège surtout. Mm-hmm. C'était surtout à ce moment-là que ça a été compliqué, quand j'ai déménagé en France, en fait. Ça a commencé surtout... En fait, déjà, j'avais du mal à me faire des amis à cause de, du coup, tous les déménagements, je pense. Ma vie sociale était assez restreinte. J'arrivais qu'à avoir, on va dire, une amie. Et ce serait ma meilleure amie. Mm-hmm. Et du coup, relation très exclusive. J'arrivais pas à me faire beaucoup d'amis. Et pendant le premier confinement, à ce moment-là, j'étais en quatrième, d'accord ? Pendant le premier confinement, tout le monde chez soi, tout le monde confiné, tout ça. Et il y a un garçon de ma classe qui a commencé à me demander des photos intimes de moi. Et donc moi, je savais pas trop ce que c'était, les dangers ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, on me prête de l'attention. En gros, on me donne de l'attention. Ce garçon, il est intéressé, on va dire. Donc, et si je lui envoie pas, il arrêtera de me parler. Donc je lui ai envoyé ses photos. Et en fait, à la rentrée de septembre, après le confinement, donc en troisième, il a partagé les photos dans mon collège. Et donc là, les gens qui se moquaient de moi, qui m'insultaient, je recevais mes photos en message privé sur Instagram de comptes anonymes. C'était assez chaud, tout le monde se foutait un peu de moi. Et il y a eu plein d'histoires comme ça avec ce groupe de garçons et tout. Ça, c'était compliqué à gérer parce que c'était la honte un peu. Enfin, j'avais un gros sentiment de honte et surtout de me dire que ce garçon-là, je pensais qu'il allait bien m'aimer. Tout ça.
Que ses intentions, elles étaient positives alors que pas du tout.
Et surtout qu'après, il a continué à forcer de septembre à décembre pour que je lui fasse certaines choses que j'ai fini par accepter parce que sinon, il arrêtait de me parler et je voulais pas qu'il arrête de me parler. Donc,
donc tu te fais prendre dans un engrenage hyper dangereux pour toi, sans même t'en rendre compte. À cette époque-là, tu sais en parler à des amis ou...
J'avais ma meilleure amie, à ce moment-là, à qui j'en parlais. Alors, elle aussi, elle avait déjà subi des choses dans sa vie et tout. Des choses un peu, pas de ce style, mais voilà. Et elle me disait que c'était pas bien et qu'il faudrait que je porte plainte, parce que c'est très grave. Elle envoyait des messages, elle lui disait d'arrêter au garçon. Elle a essayé.
Mais oui.
Mais moi, j'étais dans le déni total, en me disant que c'est pas si grave parce que dans 10 ans on saura pas que c'est moi sur ces photos là et puis jamais on va savoir et puis c'est pas grave, ça va passer et tout ça. En fait, j'avais que elle à qui en parler. Je sais que ses réactions me déplaisaient très certainement, qu'elle me dise qu'il faut que j'en parle. Elle avait proposé d'aller porter plainte avec moi, mais je voulais pas du tout et j'avais personne d'autre en soi à qui en parler à part elle.
Ok, ouais, donc elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens
à son échelle, elle a fait ce qu'elle pouvait.
Ok. Et donc, ce gars-là, personne n'est au courant dans l'école ?
Si. Ah si, tout le monde savait du coup. Il avait partagé les photos à tout le monde.
Ouais, mais donc tous les élèves sont au courant, mais les profs pas.
Ah non, pas les profs.
Les profs,
les élèves. Pas. J'avais déjà essayé d'en parler à une prof, en fait. Un peu plus compliqué que ça, c'est qu'on faisait des poèmes en cours d'anglais. Moi, j'avais de l'inspiration sur un sujet comme ça.
Tu m'étonnes.
Donc, c'était pas exactement sur ce sujet-là, c'était sur autre chose qui s'était passé quelques mois avant, une autre histoire un peu chaud. Mais c'était sur ça. Et la prof, elle m'avait pris à part et elle m'avait demandé si c'était quelqu'un de l'école. Je lui ai dit, alors pas dans ce poème, mais il y a autre chose dans l'école. Voilà, il y a autre chose. Et elle n'avait pas...
Voilà, t'as lancé un signal, mais elle n'avait pas vraiment reçu, quoi.
Non.
Ok, donc toi, tu te retrouves quand même là, un peu sans solution, quoi.
C'est ça.
Et dans même l'incapacité de comprendre ce qui t'arrive, la gravité, en fait, de ce qui est en train de t'arriver, quoi.
À 13 ans...
C'est ça, tout passe au-dessus. Et donc là, cette année-là, tu continues comme ça l'année en prenant sur toi, en fait, en disant...
C'est que je commençais déjà à ce moment-là à sombrer. Enfin, en fait, en réalité, depuis très longtemps, depuis que j'avais 11 ans, j'étais un peu dans une phase, j'étais pas très bien. J'étais un peu isolée, seule et tout le temps. Et à ce moment-là, du coup, je prends grave sur moi. Je fais genre que tout va bien. Enfin, je le dis à personne, je l'exprime pas vraiment. Et donc, je continue à aller à l'école alors que j'avais extrêmement honte à ce moment-là. C'était horrible. Enfin, genre, j'avais un sentiment,
J'imagine.
Affreux de savoir que tout le monde m'avait vu, que tout le monde savait, que tout le monde se moquait de moi. Enfin, je me souviens de choses, par exemple, avec ce garçon. Il m'emmenait dans les toilettes de l'école pour faire des trucs. Et un jour, on est sorti de ces toilettes Et il y avait son groupe d'amis à côté qui me regarde et qui me dit « Amiel, tu l'as bien. » Qu'est-ce que je fais ? Je suis partie en pleurant. C'était horrible, c'était affreux. Franchement, c'est horrible. Et ouais, du coup, j'ai pris sur moi pendant longtemps, jusqu'à mars. Donc, c'était mars de l'année, de mon année scolaire de 3e.
Donc, pendant, ça fait un bout, ça fait beaucoup de mois.
Ouais, ça fait beaucoup de mois. Bah, attends, je sais pas si mes calculs sont bons. 6 mois.
Ouais, bon, plus de 6 mois. Ou tu prends sur toi, ou t'en parles à personne.
Ouais,
si ce n'est
ça.
Ta meilleure amie. Donc, super compliqué. Et là, après, qu'est-ce qui arrive après ça ?
Bah, après ça, en mars, du coup, 2021, bah, je supportais plus la pression. Surtout que, bah, comme j'ai dit, il y avait autre chose qui s'était passé l'été d'avant avec un autre garçon, le fils des anciens amis de mes parents. Donc, c'était compliqué. Et je gérais... En fait, j'avais tout sur mes épaules. Surtout que ma meilleure amie, à ce moment-là, bah, voulait plus être amie avec moi. Donc, en février, juste avant. Donc, je me suis retrouvée très, très, très seule. Et donc, en mars, il y avait une petite embrouille à la maison avec ma mère, hein, rien de fou. Sauf que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le 9 mars 2021 exactement, j'ai pris des médicaments et j'ai fini à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Et c'est sur le lit d'hôpital que j'ai tout avoué à mon père. Tout. Il n'était au courant de rien, mon père, avant ça.
Et donc, ce que tu... Enfin, juste pour expliquer, pour que les gens y comprennent bien dans le sens... Donc, en fait, tu as eu déjà, à l'été, un problème donc avec le fils des amis de tes parents.
Ouais.
Et puis, tu enchaînes avec la rentrée, avec ce gars qui t'ennuie. Donc, tu enchaînes deux trucs en 3 mois de temps, deux trucs hyper hardcore dans une vie.
Ouais, c'est ça, à 13 ans, c'est tout ça. Seul. C'est chaud.
Ouais. Et ta copine, tu l'en avais parlé de cet été et de ce qui s'était passé l'été ou pas ?
Ouais, mais même à ce moment-là, en fait.
Elle avait le même âge que toi, donc pas plus.
Elle avait un an de plus que moi, mais vu que j'ai sauté une classe. Mais c'était un déni, un gros déni, sans me rendre compte des impacts que ça avait sur moi. Tout ça, et je parle du garçon, du fils des amis de mes parents, mais le garçon de ma classe, c'était une horreur parce que c'était tous les jours, c'était constant, ça s'arrêtait pas. C'est qu'il n'y a pas un jour où j'allais à l'école où je me disais, bah c'est bon, aujourd'hui, personne va se souvenir de rien, je vais être tranquille, tout le monde a oublié. Non, c'était pas ça. Surtout que dans mon école, il se passait d'autres choses. Enfin, il y avait eu d'autres histoires comme ça où les gens, ils vendaient carrément les photos nues de certaines filles ou quoi. C'était grave.
Ouais, et donc là, t'arrives, on est au bout du rouleau. Enfin, t'es au bout du rouleau, t'arrives à... Ouais, et donc là, tes parents, ils sont au courant de l'histoire, toutes les histoires d'un coup, là.
Toutes les histoires d'un coup. Et ça a été dur parce que...
En fait, donc, t'osais pas parler à tes parents jamais.
Non.
Pourquoi ?
Moi, j'osais pas leur parler. Parce que, ouais, c'est... Y avait plusieurs choses. Je pense que, de base, avec mes parents, même si ils étaient toujours très ouverts en soi à me parler, je pense pas qu'ils m'auraient repoussé nécessairement. Ouais. Mais on n'est jamais allé dans des sujets comme ça. Et puis, je sais que j'étais pas censée, par exemple, envoyer ces photos. Je sais que j'étais pas censée faire ça. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est limite ma faute. Alors que pas du tout. Genre, j'y peux rien. J'avais 12 ans. Le moment où j'ai envoyé ces photos, j'avais 12 ans. J'y peux rien. Et j'avais peur de leur en parler. J'avais peur de me faire disputer, j'avais peur de me faire engueuler, j'avais peur qu'ils soient déçus de moi, j'avais peur de plein de choses, j'avais peur de leur réaction en réalité. Alors qu'au final, bah, c'est sur un lit d'hôpital qu'ils l'ont appris, qu'est-ce qui aurait été mieux ?
Clairement. Ouais, donc là, tu te retrouves à l'hôpital, donc là c'est une première...
J'étais très, très, très aidée par mes parents, très aidée par mes parents, enfin... particulier mon père, parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu des tensions avec ma mère. Enfin, bon, c'était un peu compliqué, c'est pas grave. Mais un peu la relation mère-fille à l'adolescence, mais bon. Donc j'ai avec mon père que j'ai été hyper, hyper proche à ce moment-là, qui a vraiment tout donné pour moi. Surtout qu'à ce moment-là, il travaillait plus. Ça faisait trois ans qu'il travaillait plus. Il avait pris sa retraite. Et bah non, surprise, je suis là. Tu ne vas pas t'ennuyer, papa.
J'ai occupé un peu de ton temps.
Voilà, un petit peu. Non, mais à ce moment-là, bah, j'ai commencé à faire les hospitalisations, tout ça. Bah là, on est le 22 mars aujourd'hui, au moment où on tourne ça. Bah, il y a 3 ans et un jour, jour pour jour, bah, j'ai refini à l'hôpital, tout ça. Je le vois sur Snap, c'est drôle.
Ouais, quand tu revois là.
C'est pas très drôle. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à continuer à l'hôpital. Je me suis fait hospitaliser plusieurs fois. La fois la plus longue, c'était pendant 3 semaines. Et en psychiatrie, tout ça. Enfin, j'étais sous antidépresseur. J'étais tombée en dépression, du coup, sévère. Je voyais une psychiatre, ma psychologue. J'avais une psychologue à ce moment-là. J'avais beaucoup de soins.
Oui, donc tu avais beaucoup de soins. Enfin, en tout cas, le soutien de tes parents.
De ma psychiatre.
De psy, ouais, de la psychiatre.
C'est ça. Et du coup, à mon école, mon père, il a appelé l'école. En mode, faudrait peut-être faire quelque chose. Le garçon, il s'est fait virer de ma classe. Et d'un coup, en fait, c'est dingue le comportement des gens, comment ils changent. Parce que au moment où personne ne dit rien et où t'es là comme ça, t'es la petite victime qui se fait insulter, cracher dessus, tout ça. Personne, tout le monde est là à limite regarder, admirer, à rien dire ou à contribuer.
C'est ça.
Et une fois que tu parles, que le garçon, là, il s'est fait virer, ah bah,
tout le monde dit,
Miel, tu vas bien? Tu vas mieux? Par contre, s'il te plaît, parle pas de moi, hein, parce que moi, tu vois, j'essaye d'avoir des bonnes notes cette année. Ah, vas-y. Mm-hmm. Tu vois ce que
tout
je veux
dire?
Tout
le monde retourne leur veste.
C'est ça. Et ça, c'est dingue.
Mm-hmm. Ça l'est, clairement.
C'est dingue.
Ok, et donc quand t'es, comment tu vis en fait, comment ça se passe déjà en fait, peut-être pour expliquer à ceux qui connaissent pas, en hôpital psychiatrique, donc quand tu pars là 3 semaines, comment toi tu te sens, qu'est-ce qu'on a comme soins, qu'est-ce qu'on fait de ces journées?
Alors,
si tu veux.
Ouais, hein, l'hôpital psychiatrique, c'est un vrai délire en vrai. Celle où je suis restée 3 semaines, c'était ma deuxième hospitalisation longue, et donc j'y suis allée, mes parents ils m'ont emmenée. C'est eux qui voulaient que je me fasse hospitaliser parce que c'était en avril 2021, je commençais à rejeter un peu. Donc j'y vais, c'était horrible le début. Je ne voulais absolument pas y être, absolument pas y rester. C'était vraiment affreux. On en parlait avec mes parents hier et ils m'ont dit « Miel, c'était horrible parce que tu nous disais que tu nous détestais quand on t'a emmené. Tu nous disais pas au revoir, tu nous disais rien, tu ne voulais plus nous parler. » Donc c'est un sentiment très dur d'être amené là-bas déjà. Surtout à
juste le geste d'arriver jusque-là.
Le geste. Et surtout, moi, il y avait ma hantise, c'était les pyjamas bleus. Mm-hmm. C'est les pyjamas bleus d'hôpital. C'était le pire truc pour moi. Pire punition, donc j'avais ça. Et donc, en hôpital psychiatrique, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on est dans l'unité. Il y a d'autres jeunes de notre âge. Moi, il y en avait aussi des plus jeunes, qui avaient 8 ans.
D'accord.
7-8 ans, ouais. Il y avait un peu de tous les âges jusqu'à 16 ans. Et qu'est-ce qu'on fait de ces journées? On fait pas grand-chose. Hein. Je t'avoue, on va prendre le petit-déj le matin. Après, on a des heures calmes. Ça, c'était horrible. Des heures où, tu restes dans ta chambre et tu te calmes. Mmh. Voilà, tu te calmes, tu fais rien. T'as pas le droit au téléphone, t'as pas le droit d'appeler qui que ce soit. T'as les visites des parents, je crois que c'était 3 fois par semaine. Mmh. Ça va, c'est pas mal. Voilà. Et au début, en plus, quand t'as le pyjama bleu, ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux être dangereux pour toi-même. Et donc, t'as le droit à aucune de tes affaires. Mmh. Donc, t'es dans l'hôpital, t'as pas tes vêtements, t'as pas tes soins, t'as rien en fait. Sauf si tu demandes à l'infirmière de passer, machin, mais c'est relou.
Sous surveillance,
c'est ça. Et donc, un moment, après quelques jours, on m'a enlevé mon pyjama bleu, j'avais le droit à mes affaires, c'était assez. Je me sentais très privilégiée, j'avoue. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé à mes parents de me ramener des cahiers pour dessiner. Je faisais beaucoup de dessins. J'avais aussi acheté des trucs pour faire des bracelets. Voilà, les trucs brésiliens, je crois.
Bracelets brésiliens. Pour s'occuper.
Ouais, je m'occupais comme je pouvais. Et voilà, là-bas, t'as les visites de psychiatres, de médecins, 2 fois par semaine, qui t'évaluent, tout ça. Oui. Et à la fin, carrément, ça faisait 3 semaines, on m'a dit qu'il fallait que je parte. Je ne voulais plus partir.
Okay.
Je refusais de partir. Je voulais rester. J'étais tellement bien à ce moment-là dans l'hôpital que je ne voulais plus partir. Donc, je suis encore une fois partie à contre-cœur.
Mais donc tu gardes les souvenirs donc un peu stressé et traumatisant au démarrage et finalement pour cette
hospitalisation ouais. Les autres c'était pas vraiment comme ça mais les autres c'était un peu plus horrible
dans parce le sens
que,
où
parce que là on pouvait faire des activités. Il y avait des choses qui s'organisaient, on avait école à l'hôpital, on avait plein de choses en soi. Dans les autres, il n'y avait rien. C'était la mort.
Là, en fait, l'objectif de cela, c'est plutôt de te trouver le bon médicament, la bonne dose, etc. Et savoir précisément ce que tu as quoi.
Et surtout aussi de m'enlever, comment dire, si je suis dans une crise, dans un moment à risque pour moi-même, de m'enlever de ça, enfin d'être en sécurité, on va dire.
C'est ça.
C'est plus ça.
Ok, mais merci pour ce partage-là. et puis donc là, t'enchaînes. Donc t'as fait trois séjours, trois fois hospitalisé, c'est ça?
Trois fois hospitalisé, mais des nuits aux urgences. Franchement, je les ai même pas comptées. Je passais mes nuits là-bas, aux urgences, les hôpitaux et tout ça. C'était dur. Ça paraît compliqué.
Et là, en fait, c'était l'objectif d'aller à l'hôpital, c'était pour te mettre à l'abri, en fait.
Ouais, c'est ça.
De toi-même.
En fait, il m'expliquait, même moi, il disait, en fait, on te met sous une cloche. Parce qu'on te coupe de tout le monde autour. Parce que là, il faut que tu te reconcentres sur toi-même et tout. C'était parfois ok, parfois non. Je ne sais pas.
Ouais, j'imagine. Ok. Et donc là, tu n'es pas du tout encore en mode reconstruction. Tu n'y penses même pas, en fait, à ta reconstruction. Tu es en mode.
Moi, à ce moment-là, je voulais aller dans le mal. Mm-hmm. Je voulais être au plus bas possible. Je ne voulais pas m'en sortir.
Tu ne voulais pas aller bien.
Pas du tout. J'étais bien dans mon mal. C'est fou. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça, en réalité. Moi, je pensais que j'étais folle de me dire que mon mal me convenait, il me faisait du bien, limite, d'une certaine façon. Et en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et quand ils sont en dépression ou même avec plein de troubles ou quoi que ce soit, il y a plein de gens qui se sentent comme ça. Et en fait, je pense... après, c'est ma petite analyse, ma petite théorie personnelle. Tu trouves un réconfort dans ton mal-être. Parce qu'au final, il n'y a que là que tu vas ressentir des choses. Mmh. Parce que tu ne te sens pas nécessairement bien. Tu ne te sens jamais vraiment vivre et bien. Que quand tu es mal, c'est à ce moment-là que tu vas sentir des émotions et sentir des choses.
Ouais, énorme.
Énorme.
Ok. Et puis, comment en fait, après, tu arrives à ressortir la tête de l'eau et que tu te rends compte un peu de tout ce que tu viens de traverser et, ça met combien de temps déjà ? Plus ou moins aussi, pour éclairer un peu les gens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller 10 fois trop vite parce qu'ils vont pas bien, ils pensent qu'ils vont guérir en 2 secondes.
Ça dépend. Franchement, il n'y a pas de temps. Moi, ça fait 3 ans, en tout cas, que ces problèmes-là, enfin, que les hôpitaux, etc., tout ça a commencé. Je vais mieux. Mm-hmm. Je considère m'en être sortie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des rechutes de temps en temps. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que je vais pas mal de temps en temps, mm-hmm. que je suis tout le temps heureuse, que je vois toute la vie en rose. Pas du tout. Mm-hmm. C'est que c'est... En fait, quand on a des choses comme ça qui nous arrivent, on va jamais complètement mieux. On n'oublie jamais ce qui nous est arrivé. Mm-hmm. Par exemple, le harcèlement scolaire, on n'oublie jamais. Moi, j'ai subi de viols. On les oublie pas. C'est impossible. On réduit l'impact qu'ils ont sur nous et on apprend à mieux gérer nos situations de détresse. Et en fait, c'est tout ça. C'est qu'on va jamais oublier ce qui nous est arrivé. On va apprendre à mieux les gérer. Mmh. Et ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, jusqu'à que ce soit vraiment bien géré. En fait, ça va prendre beaucoup de temps et ça dépend. Il faut pas se mettre la pression sur la durée que ça prend parce que parfois, il faut toucher le fond pour remonter plus fort, pour monter plus haut. Mais faut faire attention parce que faut pas aller trop loin et faut réussir à s'épauler sur les bonnes personnes. Je sais que si j'avais pas eu mes parents pendant ces moments-là, ça aurait été très compliqué. Mmh. Ça aurait été très compliqué.
T'as eu la chance en fait d'être hyper bien encadré,
D'avoir des parents disponibles. Parce que beaucoup de gens ont leurs parents qui travaillent. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents ne travaillaient pas et beaucoup de gens n'ont pas les moyens même d'aller voir un psy, un psychiatre, d'avoir tous ces soins-là. Nous, on a les moyens, donc j'étais quand même aidée. J'avais des choses qui facilitaient, on va dire, ma guérison. Mais après, franchement, ça veut rien dire. C'est très compliqué quand même.
Oui, y a pas. L'argent ne fera pas tout, en fait, mais ça aide
ça
quand
facilite.
Même.
Ça, je suis d'accord.
Ok, et par rapport à ça, ce qui fait que tu es arrivé là, tu penses que c'est juste le fait d'avoir nié le trauma que tu avais vécu, enfin les traumas, malheureusement, parce que là, tu as enchaîné. Si tu avais parlé, est-ce que tu penses que tu aurais pu éviter ou pas du tout? Parce que de toute façon, le trauma, il est là.
Si j'avais reçu de l'aide, j'aurais pu éviter beaucoup de choses. Je te donnais un exemple. Moi, en fait, il y avait plein de situations où je pense que de fois où j'aurais pu recevoir de l'aide, où je faisais des appels à l'aide, mais par exemple, mes parents, eux, ne les reconnaissaient pas nécessairement. Mmh. Par exemple, je me suis en 2019. Ça remonte, hein. C'était même avant tous les hôpitaux, tous les trucs comme ça. Mais en 2019, j'étais à l'école et j'étais pas nécessairement très bien. C'est quand on venait de redéménager en France. Donc c'était compliqué pour s'adapter, de se faire des amis. Et j'allais pas bien. J'allais voir Nous, on avait un psychologue dans notre école. J'allais le voir tout le temps. Et il avait envoyé un mail à mes parents en disant que j'allais pas bien. Bah, mes parents, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit Miel, va mieux. Sinon, tu vas pas aux États-Unis parce qu'on devait aller aux États-Unis 2-3 semaines après. Donc j'ai fait quoi? Je collais le sourire sur mon visage, tout va bien.
Mmh. Alors que ça allait
pas.
Le masque.
Ouais, c'est ça, le masque, ça allait pas du tout. Et même un an plus tard, en janvier 2020, je me faisais du mal. À ce moment-là, j'avais 12 ans, c'est chaud en vrai. Et je me faisais du mal. Et un jour, j'étais dans la cuisine, j'avais pas mis mon pull, j'avais oublié. Et là, il y a mon père qui arrive. Il fait oh, « Chérie, viens voir, c'est quoi ça ?» Et là, embrouille, engueulade complète. Donc ça m'a renfermée.
Là, tu parles de scarification.
Ouais. Ça m'a complètement renfermée. Ça m'a pas donné l'impression que justement je pouvais parler de ces problèmes-là. Parce que j'avais pas l'impression que mes parents comprendraient, tout simplement.
T'avais peur qu'ils captent pas. Enfin, et c'est ce qui s'est un peu passé,
c'est ce qui s'est passé sur le moment.
En fait, donc là, tes parents, en fait, tu penses qu'ils comprennent pas, mais en fait, c'est juste, ils te font une mauvaise réponse, et c'est ce qui arrive souvent à beaucoup de parents,
ouais.
Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas quoi dire, et du coup, on rentre en mode qu'est-ce que tu fais,
enfin,
c'est ça.
Nous, et eux, ils comprennent pas, parce que la plupart du temps, ils ont pas été face à ce genre de situation, ils sont pas prêts. Avoir un de leurs enfants, être dans ce genre de situation. Il y a plein de choses qui rentrent en compte en vrai. Et c'est assez compliqué. C'est compliqué de même de faire le premier pas pour parler à ses parents de ce genre de problème. Et quand le premier pas est repoussé, c'est encore dur.
C'est clair. Et c'est ce qui arrive malheureusement dans plein de familles, en fait. Ça, enfin, toi, tu t'en rends compte parce qu'en plus, bah, sur les réseaux, il y a beaucoup de jeunes qui viennent te parler.
Sur les réseaux, je reçois des messages, mais tous les jours, que ce soit des commentaires sur TikTok, que ce soit des messages privés sur Instagram. Là encore, hier, j'étais en train de répondre à une fille qui me racontait qu'en gros, elle a subi des choses dans son internat. Pareil, du harcèlement. C'était du harcèlement sexuel, malheureusement. Mmh. Et elle sait pas quoi faire. Je lui ai dit, franchement, essaye d'en parler à tes parents. C'est la meilleure chose que t'as à faire, parce que malheureusement, dans ce genre de situation, même si nos parents, au début, ils vont pas nécessairement être à l'écoute, ils vont pas nécessairement savoir comment bien réagir, parce que c'est tout nouveau, eux non plus, ils ont pas appris. Enfin, c'est, y a pas de guide parental, enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'apprend pas à être parent avant de l'être, et c'est compliqué, mais c'est la meilleure chose à faire.
Ouais. Et en fait, nous, on le voit sur fil, hein, quand on regarde les jeunes parler, bah, clairement, on a beau leur dire, il faut essayer d'en parler, ils arrivent pas à avoir le déclic. C'est l'astuce bien. Qui fonctionne, en fait, c'est parfois de l'écrire, ouais. Et puis de laisser traîner ta lettre que t'as écrite, ou le papier, si t'oses pas lui donner.
J'ai une amie, c'était il y a quelques semaines, qui me racontait qu'elle avait demandé à ses parents de voir un psy, et que ses parents l'ont traité de folle, lui ont dit qu'elle avait pas besoin d'en voir, qu'elle avait pas de problème, que si elle voulait parler, elle avait qu'à leur parler, à ses parents, du coup. Et elle voulait parler à quelqu'un d'extérieur qui n'était pas ses parents. Donc ça a compliqué la chose. Moi, je lui ai conseillé d'envoyer un message à ses parents.
Mmh.
À un moment où ils ne sont pas à côté.
C'est ça, oui.
Où ils vont se voir dans 2-3 heures. Le temps que le parent lise le message, réfléchisse au message, comprenne le message. Parce que c'est sûr que quand t'arrives et que tu balances direct, par exemple, aller voir un psy. Alors normalement, c'est pas pour les fous les psys, c'est une bonne chose justement, ça montre que tu fais un pas pour aller mieux ou même pour parler de certaines choses qui te perturbent. Et sauf que première vue, genre des parents, ça peut paraître un peu « Oh là là, elle a des gros problèmes, ça va mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Limite un peu se remettre en question, remettre la faute sur soi-même, alors que c'est pas ça. C'est, aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup des gens qui voient des psychologues, des psychiatres, enfin, qui voient des médecins tout simplement. Et voilà, peut-être le message. Moi, c'est une astuce, mais moi que je faisais. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait la première fois que j'ai voulu aller voir un psy.
Ça permet de leur avoir en fait, du temps pour répondre et de s'adapter aussi. En fait, quand t'es enfant, t'imagines pas, ton parent va avoir du mal à te répondre, mais pourtant, il va avoir du mal à te répondre parce que, peu importe la thématique, qu'on soit sur du harcèlement scolaire ou qu'on soit sur de la scarification, les parents, ils sont parfois sans solution. Et du coup, ils rentrent dans leur coquille et ils vont peut-être dire des bêtises, en fait.
Ça.
Que si tu le fais par un message comme toi, t'as fait, c'est top parce que d'office, ça leur laisse du temps. Et c'est pas parce qu'ils sont adultes qu'ils savent répondre. Au contraire, même, des fois, c'est pire. Parce qu'il faut vraiment leur laisser le temps. Et puis, pour parler santé mentale, c'est juste la même chose que des lunettes. En fait, quand tu vois pas clair, t'as besoin de lunettes. Si tu vas pas bien, tu vas voir un psy et il y a aucun souci. C'est comme sur les lunettes, quoi. Je trouve que c'est vraiment.
C'est une bonne comparaison.
C'est aussi gros que ça, malheureusement. Mais sauf qu'il y a tellement de familles, c'est pas encore clair. Ils font encore le rapprochement entre psy et fou. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas.
Même hôpital psychiatrique.
Oui, mais oui.
Ouais, il y avait plein de gens à l'hôpital qui n'étaient pas fous. Hein. Il y en avait à première vue, ils étaient très normaux. Bon, après, à première vue.
Oui, oui.
Première impression. Hein. Après, quand on apprend à les connaître, ils sont perturbés.
C'est une maladie.
Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont perturbés aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Tu regardes depuis le Covid, les taux de suicide, de dépression, de prise de médicaments, tout ça, ça a augmenté comme jamais.
Les tentatives de suicide, en fait, elles ont augmenté. Le nombre de suicides a diminué. Mais le passage, en tout cas, aux urgences, ça a augmenté.
Et sauf que les urgences et l'hôpital, ils ont...
pas préparés non plus. Ils n'ont pas non plus les moyens, ni en termes personnels, ni en termes de chambre et de place.
Moi, j'ai déjà attendu 18 heures aux urgences.
La première fois, ça
Non, ça, c'était... je sais pas, un an plus tard, la première fois. J'ai attendu 18 heures sur la chaise d'hôpital, aux urgences, en attendant qu'on me trouve une place dans un hôpital à Paris. Bah, au final, pas de place. Désolée, rentrez chez vous.
Ok.
Mon père m'a trouvé une place à Rouen. Donc c'était vraiment la galère. Même la première nuit où j'ai été à l'hôpital pour la tentative, je suis arrivée et j'ai dormi sur une table d'examen. Tu sais, les trucs tout durs. Pas du tout fait pour dormir.
Non.
J'ai dormi sur ça. Sans couette, sans oreiller, sans rien. Sans mes vêtements, j'étais en pyjama bleu encore. C'était vraiment... Les conditions étaient horribles. J'étais en plus dans l'unité avec tous les nouveau-nés, avec les bébés qui pleuraient tout le temps. Voilà. Donc j'étais, pour une fille en détresse qui vient de faire une première tentative qui a 13 ans, comment ça peut l'aider? Ça ne peut pas l'aider. Et même, le psychiatre que j'avais vu ce jour-là, ce moment-là, il prenait des nouvelles de moi. Assez fréquemment, tous les quelques mois et tout, il envoyait un message à mon père. Et on l'a revu il n'y a pas très longtemps pour le faire participer du coup au projet qu'on est en train de lancer. Et en fait, il nous a raconté que cette nuit-là où j'étais venue, elle l'a marquée cette nuit. Parce qu'il y avait moi et il y avait deux autres ados dans la même situation que moi, sans place. Il n'y avait pas de place, il n'y avait rien. Et la chef de service, elle avait écrit un article sur le Figaro en exprimant tous les manques de moyens.
Oui, c'est ça, ils sont complètement aussi dépassés. Et malheureusement, ça retombe sur eux alors qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de...
C'est pas leur faute, ils n'ont pas de place, ils n'ont rien. Et malheureusement, c'est les jeunes, enfin, en tout cas ceux qui ont aux urgences, qui ont payé les conséquences, et eux aussi, parce qu'eux aussi, ils peuvent rien faire, quoi.
Par rapport à... Donc, quand tu remontes... Enfin, j'essaye de retracer ta vie, en fait, vite fait, là, mentalement. Mais donc, en fait, il y a quand même tous tes chamboulements. Donc, t'as ta partie d'abord... T'as eu d'abord un peu de scarification. Puis après, t'as eu le malheur pendant ton été, là, avec... garçon. Puis après, en fait, t'as les photos.
Tu veux que je te le refasse, là, vite fait? Alors, à 11 ans, on arrive en France. OK. À ce moment-là, j'étais déjà pas très bien. Je regardais sur Internet comment me foutre en l'air, tout ça. Donc, j'étais déjà pas très bien. À 12 ans, pendant le premier confinement, j'ai envoyé les photos intimes de moi aux garçons de ma classe. L'été, du coup, juste après le confinement, là, il s'est passé... Je me suis violée par le gars. La rentrée de septembre, donc à ce moment-là, j'avais 13 ans. Il a partagé toutes les photos. Lui aussi a fait des choses pas ouf du tout. Okay. À 13 ans encore, en 2021, en mars, là, c'est quand je suis allée à l'hôpital pour la première fois. Et après, pendant un an, deux ans, ça a continué comme ça, avec les hôpitaux, tout ça. Voilà, un peu compliqué.
Légèrement, ok, top. Mais comme ça, ce sera clair aussi pour tout le monde. Et donc là, ce que tu es dans la partie soins, comme à partir de quand où tu sors la tête de l'eau, où tu te dis bon là ça va mieux, et où tu commences à toi le sentir en fait cette amélioration. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que...
Ouais, il y a un moment où je l'ai réalisé. C'était fin 2023. Bah, en fait aussi à ce moment-là, j'ai aussi eu des troubles alimentaires pendant un an. Ça, c'était pas cool, c'était assez dur, mais bon, ça je l'ai un peu gardé pour moi. J'ai un peu mis sur le côté, même si en réalité ça me déstabilisait complètement. Mais du coup, début 2023, j'ai eu un peu un déclic parce que ça faisait déjà quelques mois que j'étais pas allée à l'hôpital, parce que en fait j'avais un copain à ce moment-là qui était beaucoup là pour moi. Donc ça faisait quelques mois que j'étais pas allée à l'hôpital, et un jour je parle avec mes parents et qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent qu'ils vont sortir. Je leur dis, c'est bien, vous sortez. Il me dit, oui, Miel, maintenant, on a plus confiance pour sortir vu que tu vas mieux. Et regarde, tu vas mieux et nous, on va mieux. Et là, quand...
T'as le déclic.
Genre, eux, ils vont mieux parce que moi, je vais mieux. Ça m'a un peu... Je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer.
Ouais.
Mais de me dire que mon bien-être, si je vais mal ou bien, ça a un impact sur les autres. Alors qu'en fait, à ce moment-là, je me rendais même pas compte de l'effort.
De l'impact sur la famille.
Et de l'impact et de l'effort et de l'implication que je demandais à mes parents. Parce qu'en réalité, mes parents, surtout mon père du coup, étaient 24-24 sur moi, enfin sur mon dos, enfin à surveiller quoi, parce qu'il avait peur, tout ça. Et et là je me suis dit, je suis un peu mieux. Et j'ai commencé à faire du contenu, du coup, sur les réseaux sociaux, en essayant de motiver les gens, vu que du coup j'allais un peu mieux. J'ai compris que j'allais un peu mieux.
Énorme. Par rapport à l'impact, donc tu dis que tu réalises à ce moment-là la charge, mais est-ce que tu n'avais pas eu des signaux déjà sur la charge que la famille, elle ressent aussi, que ça soit tes... Donc en fait, tu as des grands frères.
J'ai deux grands frères et un petit
frère. Okay.
Un peu. En fait, honnêtement, pendant ces moments-là, j'étais...
Mais t'as pas le recul.
Un peu égoïste.
Mais oui,
normal. Tout recentré sur moi. Parce que là, c'était tout qui... En fait, tout était un peu recentré sur moi à ce moment-là. Mais je sais que mon frère, suite à ça, lui, il était tombé en dépression. Aussi, il était sous antidépresseur, mon grand frère. Et même maintenant, mon petit frère, je pense que... Bon, je dirais pas que c'est de ma faute, mais j'ai un peu causé ça. Il a un trouble... Comment ça se dit maintenant? Attends, ça se dit plus pareil qu'avant. Il est Asperger.
Asperger, ouais.
Mais c'est plus comme ça qu'on dit. On dit plus ça...
Trouble autistique ou...
Ouais, trouble autistique au potentiel. Un truc comme
ça. Au potentiel, ouais.
C'est ça. Et du coup, ça lui a créé quelques problèmes relationnels. Hein. Bon, maintenant il va mieux, c'est le plus important.
Et donc là, ouais, t'as la tête hors de l'eau, tu te rends compte que ça va mieux. Et c'est quoi la solution en fait que toi t'as trouvé? Enfin, c'était en tout cas, t'as repris un contact. Là, t'avais un petit copain aussi qui t'a remis. Tes autres amis, en fait, comment ça se passe avec tes amis à toute cette période-là, qui est difficile pour toi, mais qui est aussi difficile, j'imagine, pour tes amis parce qu'ils savent pas très bien comment t'aider.
Bah, en fait, à ce moment-là, donc en mars, je vais reprendre de cette période-là, en mars 2021, quand j'étais allée à l'hôpital la première fois, à ce moment-là, j'avais pas d'amis, j'avais vraiment pas d'amis. Je me suis fait une amie un peu plus tard, en avril-mai, qui est devenue très vite ma meilleure amie. Et jusqu'à décembre, donc pendant plusieurs mois, on était hyper proches, hyper fusionnels, tout ça. Après, on a rencontré un groupe d'amis avec qui on s'est fait potes. Donc moi, je pouvais sortir, hein. Moi, j'étais... En fait, je testais les limites de tout. Donc dès qu'il y avait une connerie à faire, je la faisais. Voilà, tu vois. Et donc, on s'est fait copains avec ce groupe de potes. Et voilà, on faisait nos conneries, tout ça. On s'amusait quand même. Sauf que moi, avec les réseaux sociaux, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'en faisais pas très bon usage, les réseaux. Voilà. J'étais pas très responsable, on va dire, sur les réseaux. Et en juillet 2022, quelques mois plus tard que je me sois fait pote avec eux, en fait, j'étais aussi j'étais en couple avec un garçon de ce groupe d'amis. Ouais, ça a cassé et je me suis mis en couple avec l'autre garçon. Voilà. Et voilà, ça a fait embrouille. Et je me suis embrouillée avec tout le monde. Et donc, j'avais plus d'amis. Plus vraiment d'amis. Enfin, il me restait du coup ma meilleure amie que j'avais avant et une autre copine. Et sauf que je leur ai fait un peu la guerre sur les réseaux.
C'est ça que tu disais, pas trop responsable sur les réseaux.
C'est ça que je faisais des TikTok sur eux. Ça, j'ai un peu honte, j'avoue.
Mais bon, ils le savent. Tu t'es déjà excusé ou quoi
Oui, si, en soi, si. Ouais, mais j'ai toujours honte. J'ai toujours honte, la vie. Mais donc. Donc à ce moment-là, j'avais plus vraiment de potes et après, enfin, j'avais ma meilleure amie d'avant. Et quelques mois plus tard, je me suis embrouillée avec ma meilleure amie aussi pour d'autres raisons. Et à ce moment-là, j'étais toute seule, j'avais plus d'amis du tout. Et en fait, de novembre jusqu'à juin 2023, pendant quelques mois. C'est compliqué les dates. J'ai du mal avec les dates. Désolée. Mais pendant plusieurs mois, j'avais plus d'amis du tout. J'avais mon copain et mes parents. Bon, mes parents, c'était mes confidents, mes meilleurs potes. Mais donc, j'avais grave du mal à me faire des amis à ce moment-là. Très compliqué. Surtout que j'avais des troubles alimentaires, donc toutes les sorties, hein, tous les restaurants, tous les cafés, tous les trucs, tous les machins où il y a des buffets, tout, c'est pas possible. Je ne sortais plus, j'arrivais plus. Même le midi, quand j'avais changé d'école à ce moment-là, du coup. Le midi, quand on me proposait d'aller déjeuner. Je rentre chez moi, bonne journée. C'était dur à ce moment-là. Et je sais que ça m'a pris du temps à réussir à me refaire des amis, à re-sociabiliser. Ça a été compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à faire ça.
Ce qui est fou, enfin, quand t'as une communauté d'un million de followers...
Et j'ai pas d'amis. C'est dingue.
C'est un truc de fou.
Ouais.
En tout cas, vu de mon point de vue, comme ça, parce que je l'apprends là maintenant. Mais tu te dis...
Tu dis, j'ai 1,4 million de personnes qui me suivent et j'arrive pas à me faire d'amis dans la vraie vie. Ouais, mais ça, faut jamais croire les réseaux, hein, l'envers du décor.
Mais c'est pareil pour tout.
Pour tout.
Pareil, tu crois que certains ont une vie de dingue et finalement, c'est carrément l'inverse. Et du coup, tu as tout le temps une fâche cachée et l'envers du décor, qui est ce podcast ici, qui est tourné ici aussi d'ailleurs. Ça s'appelle l'envers du décor, mais c'est vraiment ça. Il y en a partout. OK. Et donc ici, là tu as récupéré un groupe d'amis, là, tu as réussi à refaire le pote. Tu fais un travail là-dessus aussi pour essayer de travailler là-dessus avec ta psy ou...
Bah, aujourd'hui, je vois que ma psychiatre.
Tout le temps la même, du démarrage
ouais,
encore.
Ouais, tout le temps la même. Elle est incroyable. Elle est hyper gentille.
Voilà. Énorme.
Je fais une petite dédicace si elle verrait ça un jour.
Cool.
Elle est trop gentille. Et moi, je l'ai vue hier soir, d'ailleurs. Mm-hmm. J'avais un petit appel avec elle, voilà. Mais... je travaille dessus. Sur les amis, j'arrive à me faire des amis maintenant. Mmh. À peu près. J'arrive à sociabiliser. Je sors ce soir. Mmh. Je vais m'amuser avec une amie. Donc c'est bien, j'ai retrouvé une vie sociable.
Ouais. Top. Et tant qu'on est en train de parler psychologue ou psychiatre, est-ce que tu as des expériences? Enfin, juste là, ton expérience, elle est géniale. Est-ce que tu en as une un peu peut-être moins bonne? Parce qu'en fait, pareil, sur Phil, on voit beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, mais moi, j'ai été, le contact, il passait pas. » Et puis, en fait, ils s'arrêtent là parce qu'ils ont une mauvaise expérience et puis ils n'osent pas changer de...
J'en ai eu des. J'en ai une mauvaise. J'étais allée dans un centre de psy. En fait, c'était l'hôpital, ma deuxième hospitalisation. Mmh. Le médecin qui m'avait redirigée vers ce centre de psy, c'est le CMP, les psys publics. Mmh. Et donc, on y était allé avec mon père. C'est pas du tout passé. Mmh. C'est vraiment pas du tout passé. J'ai rencontré une psychiatre. Enfin, je crois que c'était une psychiatre. En réalité, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est pas du tout passé. Le feeling ne passait pas. Elle me parlait... pas très bien, elle était pas très cool avec moi, c'était pas top. Mmh.
Et tu t'es pas arrêté en fait, après voilà, t'en as cherché un autre.
Bah, c'est mon père à ce moment-là qui cherchait. Mmh. Mais oui, en soi oui, du coup je suis allée autre part. Et tant mieux, hein, parce que je kiffe ma psychiatre.
Top, ok. Et donc après tu parles, donc ici, bon, t'es reparti, là, ce soir sorti, c'est cool. Mais en fait ce que j'aimerais aussi faire passer, c'est justement les conseils que toi tu pourrais donner aux autres. Bah, peu importe la problématique, qu'est-ce que tu aurais à dire pour leur éviter en fait le passage que toi, les mauvais passages que tu as eu?
Moi, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais beaucoup de choses. Je leur dirais déjà de s'appuyer. Je regarde la caméra.
Vas-y, tu peux.
Je leur dirais de s'appuyer sur des gens qui sont solides. Quand on va pas bien, être entouré de gens qui ne vont pas nous aider à aller bien, en fait, ça va aider personne. Quand t'es pas bien, il faut s'entourer de personnes qui sont stables à peu près. Tu vois, pour mon cas, par exemple, les parents qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont apporté beaucoup de soutien, alors que je sais que parfois c'est les parents qui sont le problème dans certaines situations. Mais un oncle, une tante, un professeur en qui tu as confiance, peu importe, en fait, il faut quelqu'un qui puisse t'épauler et qui soit assez solide sur ses baskets pour t'aider dans des situations compliquées. Après aussi, jamais désespérer. Okay, je suis la preuve humaine que vas-y, faut pas désespérer. Après, voilà, j'ai pas la pire vie non plus, faut pas abuser. Il y a des gens qui l'ont bien pire que moi, mais j'ai bien cumulé quand même, je pense.
Un peu de temps, heureusement.
Ça va, j'ai eu le combo. Mais voilà, faut pas désespérer. Je sais que parfois c'est très compliqué. Je sais qu'on a tendance à perdre espoir, à pas voir la lumière au bout du tunnel, à se dire que si en ce moment c'est comme ça, c'est que je suis destinée à être dans une mauvaise phase toute ma vie, que je suis destinée à avoir une mauvaise vie alors que c'est pas du tout vrai. On a plein de belles surprises qui nous arrivent, il y a plein de belles choses qui nous tombent dessus, et c'est pas une mauvaise période ne fait pas une mauvaise vie. Donc faut pas lâcher sur ces moments-là, même si c'est dur. Mais faut garder la tête haute et faut avancer, et un jour ça ira mieux. Promis.
Vraiment. Mais en fait, ça a l'air bidon parfois comme phrase, alors qu'en fait, c'est vraiment
c'est
ça.
Vrai.
C'est vraiment ça, quoi.
Et aussi, moi j'ai plein de choses à dire.
Vas-y.
Et aussi, quand on va pas bien, par exemple, là c'est plus un peu visé, mais pour les gens qui ont tendance à se faire du mal ou avoir des réactions pas très bonnes vis-à-vis d'eux-mêmes quand ils sont pas bien, il y a plein d'exemples, hein. Se scarifier, se faire du mal, s'énerver, taper dans des trucs, bref, il y a plein de façons. Mais c'est de trouver des alternatives à ces actions. Par exemple, c'est un exemple. Mmh. Imagine, t'es pas bien, tu vas te faire du mal, tu vas commencer à sombrer, à être en pleurs et tout. Et de trouver une occupation qui peut te procurer un bien différent. Par exemple, dessiner. Dessiner, ça fait du bien quand on aime ça. Dessiner quand t'es pas bien, et là tu vas dessiner, tu vas tout exprimer sur ta feuille, ça fait du bien. Ou par exemple, jouer à un jeu. Il y a des fois, je sais pas, il y a des jeux anti-stress ou des trucs comme ça, je crois. Mmh. Ou se maquiller, ou appeler une amie, ou appeler son père, appeler sa mère, appeler son frère, sa soeur, peu importe. En fait, il faut trouver des alternatives à ces problèmes. Et ça, moi, on me l'avait beaucoup dit quand j'étais à l'hôpital. On me faisait faire une liste, un kit de secours, les choses à faire quand ça va pas. Et je les jetais à la poubelle à chaque fois. Je le jetais. Alors qu'en fait, c'était pas si con ce qu'ils me disaient de faire. Ouais. C'était vraiment pas bête. Et j'aurais peut-être pas dû les jeter. Voilà. Bah, maintenant, avec un peu de recul, je le dis que c'est bien de faire ça, des listes avec des solutions que tu peux faire rapidement quand tu vas pas bien.
Clairement. Top. Et est-ce que tu aurais aussi des conseils pour les parents?
Pour les parents?
Oui.
Un conseil pour les parents. Je pense que ça peut faire peur, mais la santé mentale, ça devient une priorité aujourd'hui. Et que même si dans les anciennes générations et dans les anciennes époques, c'était pas une priorité et qu'on n'y pensait pas nécessairement beaucoup, aujourd'hui, bah, le monde y change et aujourd'hui, il faut s'adapter à ce genre de problèmes et ce genre de, bah ouais, de problématiques, tout simplement. Et même si ça, c'est dur, hein, parce que voir, je sais pas, son enfant pas bien, ça après, moi, je suis pas d'enfant, hein, j'avoue, je suis un peu jeune pour ça. Mais je pense que voir son enfant pas bien et malheureux, malheureuse, ça peut être difficile. Et ça peut être déstabilisant, peut se remettre en question, se remettre la faute dessus, tout ça. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est pas ce qui s'est passé hier, pas ce qui s'est passé avant-hier. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour et qu'il faut trouver des solutions pour mieux avancer. Et que même si c'est difficile, bah, désolé, hein, vous êtes les parents. vous êtes responsables. Bon, c'est un peu méchant comme ça. C'est pas méchant, mais c'est dans le sens vous êtes là pour eux, vous devez être là pour eux, les enfants, c'est votre devoir, vous devez les faire grandir heureusement, et même si c'est pas toujours facile, et même si parfois on fait des erreurs, parce que adultes ou jeunes, on fait tous des erreurs hein, dans notre vie, à 15 ans, 16 ans, ou à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on fait tous des erreurs. Mais le plus important, c'est d'avoir la bonne intention et de bien avancer. Et il y a plein de gens qui peuvent orienter et aider pour ça.
Par rapport à ton projet, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, nous donner 2-3 infos à l'avance, puisque ça va bientôt sortir.
Le projet.
Et qu'est-ce que tu peux...
Quelques infos. On est en train de travailler sur une application, sur une grosse application. Qui s'appelle... est-ce que je peux dire le nom? En vrai, ça s'appelle Link. Link, c'est beau. Voilà. Bon, ok, bref. c'est une application sur le bien-être et la santé mentale pour les jeunes, du coup, qui va sortir et qui va en fait viser à rapprocher le monde adulte et le monde des jeunes. Parce que quand t'es jeune et que t'as un problème, ton premier pilier, ça doit être tes parents ou un adulte, hein, un oncle, une tante, peu importe. Et donc c'est vraiment ça l'objectif concret de l'application. Et aussi ça va être d'un autre côté une boîte à outils pour les jeunes pour les aider dans leur bien-être, dans leur développement personnel, on va dire, où ils pourront suivre leur évolution d'humeur, de fatigue, tout ça. Enfin, il y a plein de choses dans l'application, je peux pas trop en dire, mais il y a plein de choses, promis. Et il y aura aussi des contenus vidéo qu'on va faire, donc qui vont viser sur plein de thématiques pour les jeunes et pour les parents. Pour les adultes, parce que des fois c'est les oncles et tantes, mais enfin, bref, j'arrête de parler. pour les adultes. Et en fait, on va essayer de traiter un certain nombre de problématiques, et ça va sortir bien avant l'application. Hein. L'application, c'est second temps. On va essayer de conseiller, de soutenir les jeunes, les adultes aussi. De donner des solutions possibles, même d'éduquer les adultes sur tous ces problèmes de santé mentale, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas vraiment compte, qui ne sont pas vraiment au courant, qui n'ont pas nécessairement le temps de regarder tout ça. Donc on va proposer beaucoup de vidéos courtes par rapport à ce sujet-là.
Okay.
On est en train de faire beaucoup de choses.
Ouais, donc du contenu, une application et recréer du lien entre les parents et surtout améliorer la communication quand elle est un peu abîmée, parce que c'est une des problématiques.
Même avant. Même quand la communication va bien. Tu vois, dès que t'as 10 ans, je sais pas, quand t'as ton premier téléphone, tu mets cette application. Et en fait, le plus important, en fait, le mieux, on va dire, c'est d'avoir cette connexion, enfin, cette communication, ce dialogue possible avec son enfant dès le début, avant même qu'il y ait des problèmes qui arrivent. Parce que quand les problèmes, ils arrivent, bah, le jeune, il va pouvoir en parler librement et demander de l'aide et trouver des solutions directement. Alors que quand tu établis le lien, bah, quand ça va pas, quand ça va déjà pas, le chemin est plus difficile. Alors après, on en est l'exemple, hein. Moi avec mes parents ça a été comme ça, c'est pas impossible, par contre ça peut être beaucoup plus compliqué, donc le mieux c'est d'établir ce lien avant.
Super,
voilà,
c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir
à toi.
Été là, c'était trop cool. J'espère, si tu veux, j'espère ça va aider beaucoup de gens, sûr.
J'espère.
C'était cool, merci bien.
Merci, au revoir.
C'était l'histoire de Miel. Si ça t'a touché, aidé, like, partage et abonne-toi pour plus d'histoires. Chaque action de ta part aide à propager nos messages, et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Miel nous montre que parler peut non seulement nous aider à guérir, même si c'est difficile, mais ça va aussi aider à soutenir les autres. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.